Il ne faut en aucun cas laisser les gouvernements écrire seuls l'histoire.
Les leçons de Tibérine.
Mon premier matin à Tibérine, je me lève à 6h du matin, j'ouvre la fenêtre, un ciel bleu sur la montagne, magnifique. Puis tout d'un coup, j'entends la voix du muezzin juste à côté, par des haut-parleurs. Et puis, 3 minutes après, la cloche du monastère. C'était la seule cloche qui sonnait encore en Algérie.
C'était une humble communauté monastique qui n'aspirait qu'à la dernière place, dans l'ombre. L'histoire en a décidé autrement, il y a 20 ans précisément. 7 cisterciens de Notre-Dame de l'Atlas ont été enlevés. C'est en mai que leurs corps ont été retrouvés. On peut certes dire qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil des assassins. Ce qui diffère cependant aujourd'hui, c'est l'expansion géographique indéfinie des champs de bataille. N'importe qui peut avoir le sentiment d'être en danger n'importe où. Les moines de Tibérine, eux, avaient depuis longtemps le sentiment d'être au pied d'une mort imminente, mais ils avaient fait le choix de rester en Algérie. Les non-croyants diront que leur courage était la forme aboutie de leur conscience professionnelle, et les croyants que, ressuscités par leur profession monastique, ils avaient moins de raisons d'avoir peur que les autres. Si particulière qu'elle soit, l'expérience de Tibérine en dit long aujourd'hui. Malgré les pressions des autorités, les Algériens de la région n'ont pas consenti à ce que le lieu devienne une ruine et soit rayé de la carte, tandis que de ce côté-ci de la Méditerranée, le public a fait fête aux innombrables livres et films consacrés à l'aventure. Comme si, en pleine montée des périls, ce lieu d'exception constituait comme une promesse.
La marche de l'histoire. France Inter, Jean Lebrun.
Henri Quinson, bonjour.
Bonjour.
Vous avez changé de vie. Dieu sait combien de fois, ancien banquier, et pas n'importe quel banquier, hein. Un bel appartement avenue Bosquet à moins de 30 ans.
Un trader, c'est ouais. Pire que tout. Ouais.
Ancien moine cistercien de Tamier. On est bien informé quand on est moine.
Très très bien, là je viens d'entendre la voix de Philippe Aymon, qui est un frère de Tamier, qui allait très souvent à Tibérine, et donc notamment nos informations sur ce qui se passait dans le monde musulman en Algérie étaient très très importantes.
Mais vous n'êtes pas qu'un ex quand même, vous êtes professeur maintenant à Marseille.
Alors certains disent que je suis un expert, alors je ne sais pas dans quel sens il faut l'entendre, mais je suis toujours éducateur et enseignant à Marseille, et engagé dans une association qui s'appelle Loger Marseille Jeunes, qui s'occupe d'un parc de logements privés à vocation sociale pour les jeunes des quartiers que j'ai côtoyé pendant 15 ans à Marseille.
Ex-conseiller monastique de Xavier Beauvois pour le film « Des hommes et des dieux », vous étiez là pour rappeler la règle de Saint-Benoît face...
À la règle de Saint-Beauvois. Beauvois qui a été canonisé à Cannes, grâce à ce prix pour ce film, mais qui avait effectivement parfois des vues un peu personnelles sur ce qu'il fallait faire dans le cadre monastique.
Vous avez d'ailleurs consacré à l'expérience un livre aux presses de la Renaissance, « Secret des hommes, secret des dieux ». Quand un moine arrive dans le monastère où il va promettre stabilité, il pense que c'est le dernier paysage qu'il verra de sa vie. Le paysage de Tibérine, qu'est-ce que c'était ?
Exactement, c'est d'ailleurs Lambert Wilson, acteur dans « Des hommes et des dieux », qui m'avait dit quand il avait passé 3 jours à l'abbaye de Tamier pour se préparer à ce film, que ce qui l'impressionnait, c'était de rester sur place. Et effectivement, Tibérine, c'était un lieu particulier parce que c'est sur la montagne. Souvent, les monastères sont dans les vallées pour avoir l'accès à l'eau, notamment. Mais là, il y a une vue superbe. C'était en fait une ancienne maison qui appartenait à un riche propriétaire anglais et qui ensuite a été donc récupérée et agrandie par la communauté. Et c'est donc ces régions montagneuses du Moyen Atlas, avec donc le froid l'hiver, mais aussi évidemment la chaleur l'été de l'autre côté de la Méditerranée. Et un lieu important, stratégique aussi, ce qui sans doute était une des difficultés après de cette communauté, c'est que dans ces montagnes, on peut se cacher quand il y a commencé à y avoir ce que vous avez appelé guerre civile tout à l'heure, donc les islamistes contre le pouvoir algérien, et en même temps le pouvoir algérien avec l'armée qui cherchait à contrôler cette région qui permet d'aller de l'est à l'ouest, donc un endroit aussi très stratégique pour les militaires.
Chaque mort compte, il faut citer les noms des moines disparus, Les cinq premiers, frère Paul, frère Célestin, frère Bruno, frère Michel, frère Christophe, ce sont tous des gens étonnants, hein, avec des parcours en dents de scie, parfois aventureux.
Exactement. Alors, certains avaient déjà été en Algérie parce que, bon, par exemple, frère Paul a été parachutiste, mais il était plombier, il avait les mains dans le cambouis, c'était un homme très concret. Très souvent, il disait, quand il était en Algérie, qu'il cherchait des pièces pour réparer des choses, pour les conduites d'eau, il disait quand arrivent ces pièces, hein, il était un Savoyard près de la Suisse, il faut être à l'heure, et on lui répondait Inch'Allah, il disait toujours Inch'Allah oui ou Inch'Allah non, très concret. Il y avait également un éducateur nantais qui avait aussi côtoyé des gens en grande difficulté. Bref, il y avait beaucoup d'engagement à tous égards de ces hommes. Avant d'entrer au monastère, il connaissait bien la vie concrète des gens.
Le métronome spirituel de la communauté, c'est peut-être le vieux frère Luc, 82 ans. Médecin, moine depuis 50 ans, qui avait été otage des Félagas pendant la guerre d'Algérie et qui, dans le film de Xavier Beauvois, est incarné par Michael Lonsdal.
Pour moi, il y avait deux hommes dans Frère Luc. Il y avait le médecin et puis il y avait le religieux, le moine. Frère Luc le cachait, ce côté-là. Il le cachait, il fallait le découvrir. Je suis sûr qu'il y a eu des frères qui ont vécu avec lui sans se rendre compte de la qualité de cet homme, cette richesse qu'il y avait en lui.
Pendant toute ma vie de médecin, j'ai eu affaire à toutes sortes de gens très différents, y compris des nazis, et même le diable. Tu sais, j'ai pas peur, moi, des terroristes, et encore moins de l'armée. Je crains pas la mort non plus, je suis un homme libre.
S'il a connu les nazis, c'est que pendant la Seconde Guerre, frère Luc, interprété donc par Michael Lonsdal, on l'entendait avant Don Jean de la Croix, ancien abbé de Notre-Dame de l'Atlas, il était parti remplacer volontairement un père de famille nombreuse, prisonnier d'un naufrage.
Voilà, alors Luc, c'est vraiment, enfin ce que me disait Michael Lonsdal, pour lui c'était vraiment le chrétien et l'humaniste parfait, c'est-à-dire un homme engagé, et donc qui très très rapidement s'est engagé comme médecin, effectivement dans des conditions très particulières, et qui, comme vous l'avez rappelé, a été aussi enlevé pendant ce que nous appelons la guerre d'Algérie, et les Algériens la guerre d'indépendance. Et c'était un désespoir quand les frères ont été enlevés en mars 1996, c'est que lui avait... s'en était échappé, puisqu'à un moment donné, les ravisseurs s'étaient rendu compte qu'enlever un moine qui soignait gratuitement tous les Algériens de la région, c'était pas du tout populaire pour la cause indépendantiste de l'époque. Et donc, on pouvait espérer la même chose en 96. Luc a eu un rayonnement extrêmement important, et moi qui vis à Marseille, je continue de rencontrer des personnes d'origine algérienne qui me disent qu'un membre de leur famille a été soigné par Luc à Tibérine.
Plus intellectuel, plus spéculatif, le frère Christian, le supérieur, le prieur, qui, lui aussi, il avait 59 ans quand il est mort, a eu l'expérience de la guerre d'Algérie.
Oui, lui était en fait séminariste, et donc comme jeune se préparant à devenir prêtre, il était envoyé comme tout le monde en Algérie, et il avait fait ça donc dans ce qu'on appelait la SAS, qui était en fait des officiers qui étaient chargés d'apaiser la population civile, et il s'était lié d'amitié avec quelqu'un qui s'appelait Mohamed, père de 10 enfants, et ils discutaient souvent jusqu'au jour où ce Mohamed l'a défendu contre des Félagas qui pointaient sur lui son arme, et le lendemain, ce père de famille a été retrouvé égorgé près d'un puits. Et donc à 23 ans, Christian s'est trouvé confronté au fait qu'un musulman lui avait sauvé la vie. Il va retourner en Algérie finalement, alors que pendant 15 ans il ne parlera pas de cette histoire, me disent les membres de sa famille, pour finalement aussi d'une certaine manière rendre l'appareil et résoudre d'un point de vue théologique, c'était un intellectuel, le fait que bah voilà, si un musulman peut sauver la vie d'un chrétien comme ça, qui va au paradis, qui fait le bien, est-ce qu'il ne faut pas être jugé sur ses actes? Et en particulier ce que l'on fait au prochain, aux gens qui nous entourent.
C'était un homme à lire la Bible en arabe et à conduire parfois sa méditation avec le Coran. Un monastère, ça suppose la clôture. Et pourtant, Tibérine, c'était un signe d'ouverture.
Alors, la tradition monastique a toujours mis en honneur l'hospitalité, comme d'ailleurs les populations du Maghreb, qui sont très attachées à l'hospitalité vis-à-vis de l'étranger. Et dans les monastères, il y a toujours eu donc des chambres pour les autres, mais c'est vrai qu'à Tibérine tout particulièrement, l'idée de Christian de Chergé, quand il est devenu prieur, donc responsable de cette communauté, c'était d'avoir vraiment des liens fraternels très forts avec le voisinage, et c'est la raison pour laquelle encore aujourd'hui, d'ailleurs, il y a des villageois de Tibérine qui travaillent, alors qui travaillaient avec les moines. Aujourd'hui, c'est un prêtre qui s'appelle Jean-Marie Lassosse et qui travaille donc dans le jardin de Tibérine où il y a à la fois un verger, un potager. Et donc, il y avait des liens très étroits, matériels, mais aussi évidemment affectif. Et quand je suis retourné plusieurs fois à Tibirine, les villageois se sont toujours empressés de dire toute l'amitié qu'ils portaient pour les moines et leur regret, leur grand regret, de ne plus les avoir parmi eux.
La maison d'ouverture est néanmoins cernée pendant ce que je continue d'appeler la guerre civile d'Algérie. Oui. Les responsables locaux du pouvoir algérien pressent les moines de partir. Les combattants frères de la montagne du GIA en octobre 1993 posent un ultimatum. Il ne doit plus y avoir d'étrangers sur le territoire algérien et surtout pas de non-musulmans. Dans le voisinage, des Croates employés dans un chantier vont être égorgés. Et la nuit de Noël, un groupe d'hommes armés jusqu'aux dents surgit, exige de voir le pape du coin et le prieur Christian de Chergé, dans le film de Xavier Beauvois, c'est Lambert Wilson, s'avance.
Qu'est-ce que vous voulez? C'est une maison de paix, ici.
C'est vous, Christian?
Oui. On n'entre pas ici avec des armes. Si vous voulez nous parler, vous devez les laisser à l'extérieur du monastère. S'il vous plaît.
Je m'en sépare jamais.
Alors suivez-moi, nous allons discuter dehors.
J'ai besoin des Tobib. Ils doivent venir avec nous.
C'est impossible.
J'ai trois blessés qu'elle doit soigner à une heure de route.
Il ne peut pas partir d'ici, il est malade, il est vieux, il a des crises d'asthme. Frère Luc a toujours soigné les blessés qui viennent au dispensaire. Il soigne indifféremment tous ceux qui ont besoin de lui. Il se fiche de leur identité et nous continuerons à faire de la sorte, mais rien de plus.
Alors vous allez nous donner des médicaments?
Non, nous manquons de médicaments. Tous les jours, nous soignons une centaine de nos frères musulmans.
Assez! Vous n'avez pas le choix.
Si, j'ai le choix.
Et on peut voter au chapitre. Là se pose en effet la question de rester pour les moines.
Exactement. Et en fait, la communauté est divisée, à vrai dire, dans la réalité, dans le film, elle est vraiment divisée presque pour part égale, mais dans la réalité, le lendemain de cette intrusion du groupe islamique armé, donc le 24 décembre 93, quasiment tout le monde est pour partir. Et Frère Luc dira, c'est tous des dégonflés. Et il a fallu travailler sur les raisons de rester. Évidemment, il s'agissait pas, comme on le dit dans le film, de se laisser assassiner gentiment. Donc, comment rester en espérant pouvoir vivre? Et en fait, c'est beaucoup les voisins qui, en disant, notamment par cette image qu'ils étaient comme des oiseaux sur une branche et que la branche, c'était les moines, c'est-à-dire qu'ils comptaient sur l'amitié, la solidarité et aussi l'assistance parfois matérielle des moines pour faire face à cette situation de grande violence. Et c'est sur la base notamment de ce témoignage des voisins que les moines ont décidé de rester en prenant le maximum de précautions. Malheureusement, ils ont été enlevés par un groupe, mais qui est sans doute pas le groupe terroriste, enfin qui est même sûrement pas le groupe terroriste local.
Alors ça veut dire que chaque repas, à partir du moment où on décide de rester, peut être le dernier. En voici un tel qu'il a été restitué librement, mais la liberté permet la fidélité, par le film des dieux et des hommes. Alors le père prieur annonce que le repas va commencer, en principe par une prière. Le frère Luc est là, et qui lui surgit avec des bouteilles de vin, ce qui laisse le prieur un peu interloqué, et frère Luc va mettre une cassette sur le vieux magnétophone.
Seigneur, béni sois-tu pour ce repas qui nous rassemble en frères, maintenant et pour les siècles des siècles.
Thank you.
La marche de l'histoire. Jean Lebrun sur France Inter.
Il y a 20 ans, les moines de Tibirine, nous sommes avec Henri Quinson, qui était le conseiller monastique du film de Xavier Beauvois. Alors vous racontez dans Secret des hommes, Secret des dieux, c'est votre livre aux presses de la Renaissance, que ça a été tout un débat d'ailleurs, le choix de cette musique pour ce repas.
Oui, c'est vrai qu'au début, Xavier Beauvois voulait que les moines chantent du Jacques Brel. Alors je lui ai expliqué qu'il ne pouvait pas connaître par cœur une chanson de Jacques Brel, et puis que...
Marquise.
Voilà, mais l'avenir est au hasard, c'était pas théologiquement correct. Mais par contre, qu'ils écoutaient pour les fêtes de la musique, et donc c'est lui qui m'a proposé cette musique-là, et j'ai trouvé que c'était très bien de prendre une musique qui n'était pas spécifiquement chrétienne, parce qu'en fait, ce dernier repas, c'est bien sûr le dernier repas de Jésus, ça, il y a du pain et du vin, on peut comprendre pour le public chrétien, mais en même temps, ça montre l'universalité de cette histoire. On peut penser par exemple aux Français qui se rassemblent après les attentats de Charlie Hebdo, sur une place publique pour manifester leur appartenance à la communauté nationale. Là, il y a un groupe qui tout à coup arrive ensemble à prendre une décision commune et qui fait face aux dangers avec le risque possible, évidemment, qu'il cherche à éviter, mais d'être assassiné par un groupe armé.
Vous cherchez à éviter le mot martyr, vous, Henri Quinson.
C'est-à-dire, le martyr, Christian de Chergé disait que c'était un mot assez chargé d'ambiguïté. Alors aujourd'hui, il l'est encore plus puisqu'il est utilisé, enfin en arabe c'est shahid, mais on va parler de martyr, en fait de kamikazes qui se font exploser. Évidemment, les moines, eux, ont accepté le martyr qui en grec veut dire témoignage. Il s'agissait de témoigner de leur fraternité, de l'amitié qu'ils avaient pour leurs voisins jusqu'à l'extrême. C'était une expression qu'utilisait Christian de Chergé. Jusqu'à l'extrême, c'est perdre sa vie. Considérant que l'essence de la communauté et d'être amour du prochain, des gens autour d'eux, était plus importante que leur existence physique, sans aucun mépris pour leur existence physique. Mais il ne s'agissait en aucun cas, évidemment, de se tuer pour tuer les autres. Il s'agissait au contraire d'aider les autres. Et c'était une distinction importante. C'était pas non plus pour prouver que la foi chrétienne serait supérieure à telle autre, etc.
Parce que la tradition du martyr, elle existe dans toutes les religions et dans chacune des religions sous toutes ses formes.
Exactement. Mais ce n'est pas une gloire personnelle pour montrer qu'on est meilleur que les autres, disait-il. Il s'agissait d'un engagement à l'égard des gens qui vous entourent, en l'occurrence surtout des villageois de Tibérine et de la région de Médéa, de solidarité, et quitte à prendre ce risque. Mais donc c'était un mot assez piégé, compte tenu de toutes ces implications.
Il est arrivé pendant la guerre d'Algérie que des imams meurent pour s'opposer à la violence de leur co-religionnaires.
Exactement. Les frères insistaient beaucoup sur le fait que les premières victimes de ces guerres intestines dans le monde musulman, et en tout cas en Algérie, c'était effectivement beaucoup d'imams qui s'étaient opposés à notamment la violence contre des civils innocents, ce qui est le cas des moines, mais ce qui a été le cas de probablement 200 000 Algériens. Et donc, il y avait là une communauté de pensée. Et il s'agissait donc d'arriver à définir une spiritualité qui soit à la fois pleinement elle-même. D'ailleurs, dans le film, vous voyez, il y a les symbole, par exemple, du vin qui est spécifiquement chrétien et pas du tout musulman, mais qui pour autant est une spiritualité ouverte. Il y avait une vraie recherche commune, d'ailleurs, de dialogue avec notamment les musulmans soufis de la région.
Testament de martyr. François Sureau vient de publier un très beau livre sur la mort de Charles de Foucauld. C'est aussi un anniversaire, c'était en 1916. Très beau testament de Charles de Foucauld. Et le testament de Christian de Chergé, qui a été rédigé peu après la visite du GIA pendant la nuit de Noël, il y a donc maintenant 23 ans.
Ma vie n'a pas plus de prix qu'une autre. Elle n'en a pas moins non plus. En tout cas, elle n'a pas l'innocence de l'enfance. J'ai suffisamment vécu pour me savoir complice du mal qui semble hélas prévaloir dans le monde, et même de celui-là qui me frapperait aveuglément. Je ne saurais souhaiter une telle mort. Il me paraît important de le professer. Je ne vois pas en effet comment je pourrais me réjouir que ce peuple que j'aime soit indistinctement accusé de mon meurtre. C'est trop cher payer ce qu'on appellera peut-être la grâce du martyr que de la devoir à un Algérien, quel qu'il soit, surtout s'il dit agir en fidélité à ce qu'il croit être l'islam. Je sais le mépris dont on a pu entourer les Algériens, pris globalement. Je sais aussi les caricatures de l'islam qu'encourage un certain islamisme. Il est trop facile de se donner bonne conscience en identifiant cette voie religieuse avec les intégrismes de ces extrémistes. L'Algérie et l'islam, pour moi, c'est autre chose. C'est un corps et une âme.
Nous avons fait un pas de côté par rapport au film que vous connaissez si bien, Henri Quinson. C'est une lecture par Éric Herson-Macarel. C'était à France Culture. Ils ont été tués, on ne va pas se demander par qui, ni raconter les péripéties de l'enquête qui est de nouveau enlisée, mais ils ne sont pas morts. Tibirine demeure.
Oui, Tibirine est un lieu qui est devenu un lieu de pèlerinage. 50% des personnes à peu près qui s'y rendent, me dit Jean-Marie Lassauce, qui donc continue d'y travailler la terre avec les voisins et qui en quelque sorte est l'animateur de ce lieu avec probablement en perspective l'arrivée d'une communauté, mais c'est pas encore totalement décidé à ce jour.
Et il faut que les autorités algériennes
soient d'accord.
On accepte le principe.
Mais c'est un lieu de pèlerinage. D'ailleurs, les autorités algériennes sont un peu embêtées parce que il y a un attachement très fort de la population locale à ce lieu monastique chrétien. Et en même temps, ce lieu a également vocation à être habité, puisque à l'époque, il y avait surtout ce lieu de prière, de travail et l'hospitalité. Mais aujourd'hui, avec ce lieu de pèlerinage, on peut dire que 20 ans après, hein, le lieu a pris une dimension encore plus grande par rapport à la population locale, et notamment avec ce film qui était Des hommes et des dieux, qu'on a tourné au Maroc. Les autorités ecclésiastiques au Maroc étaient chrétiennes, a été très très réticente pour ne pas dire plus, parce qu'elles craignaient des représailles, hein, on peut le comprendre. Mais en fait, ce film a au contraire donné un parapluie supplémentaire à ce lieu. On est obligé de le préserver parce qu'il est devenu extrêmement connu et chargé de signification, et notamment d'entente entre chrétiens et musulmans, et on pourrait même élargir à le côté nord de la Méditerranée et le côté sud de la Méditerranée.
Je veux bien, Henri Quinson, vous qui habitez depuis longtemps à Marseille, que cette exception puisse être une promesse, je reprends le langage du frère Christian, est quand même un peu difficile à concevoir aujourd'hui.
C'est vrai qu'aujourd'hui, on voit bien avec la dimension extrêmement violente que prend le fameux choc des civilisations décrit par Huntington, que ceux qui sont dans le camp de la fraternité universelle dans la mondialisation qu'on connaît, on va leur dire, mais vous êtes, et c'est ce qu'on disait à Christian de Chergé, il en parle dans son testament, on va me prendre pour un naïf. Mais en réalité, y a-t-il une autre voie que de chercher à s'entendre alors que la planète est de plus en plus une, interconnectée, et que des défis qui ne sont pas des défis proprement confessionnels, comme par exemple le réchauffement de la planète, les questions écologiques, mais également les grandes questions sociales, l'accès à l'eau pour peut-être un milliard de personnes aujourd'hui dans le monde, ces questions-là, est-ce qu'on a une vision, est-ce qu'on leur donne un sens, est-ce qu'on leur donne un contenu spirituel?
Alors, est-ce qu'on leur donne un contenu spirituel? Votre interrogation, c'est celle-ci, Henri Quinson. Si ça avait été seulement une expérience de participation sociale, ça n'aurait peut-être pas le rayonnement que ça a encore aujourd'hui, parce que un sens voulait être donné, la transcendance était présente.
Exactement. Je crois que dans l'expérience de Tibirine, et c'est pour ça qu'il y a eu autant de livres sur cette expérience, je pense que c'est une exception prometteuse. Pourquoi ? Parce qu'on voit bien qu'aujourd'hui, on est en plein dans ces questions. Comment est-ce qu'on arrive à articuler, effectivement, de la solidarité, de la fraternité, qui notamment assume les questions matérielles, par exemple la faim et la soif dans le monde, la justice sociale, la dignité des personnes, mais en même temps un sens à l'aventure humaine. Et les voisins de Tibirine, pour l'essentiel musulmans, qui sont même allés voter pour la plupart d'entre eux, je le sais personnellement, pour le Front islamique du salut, donc les islamistes non violents, mais qui étaient présents aux élections, ces gens-là respectaient les moines parce qu'ils étaient porteurs de sens, de spiritualité, de la question de la transcendance. Et donc, quel est le sens de notre existence au-delà de la mort? Quelle est notre aventure collective, à la fois localement, à Tibirine, mais ça peut être vrai dans nos villes, dans nos pays, également à l'échelle de la planète? Et je crois que c'est ça, l'articulation entre la transcendance entre nous, comment vivons-nous entre nous sur la planète, et quel est le but de notre aventure humaine? Je crois que c'est ça, la meilleure défense par rapport à la violence qui peut s'acharner aujourd'hui, notamment dans nos villes ici, en Occident.
Et qu'on ne vous prenne pas pour un doux rêveur, comme on a pris le frère Christian, vous vivez d'expérience, les réalités concrètes de Marseille et de ses quartiers nord. Merci à vous, Henri Quinson. Votre livre, je le rappelle, aux presses de la Renaissance.